Très bien, merci. Merci à vous d'être présent ce matin sur Radio Judaïka comme un vendredi sur deux. C'est l'heure de la chronique du Kerena Yesod. Alors, on va commencer avec vous, Yoël. 2023 a été une année qui a vu le retour de la guerre en Israël depuis le 7 octobre et l'attaque barbare du Hamas. Alors, Yoël, quel a été votre impact et votre stratégie depuis le 7 octobre?
Alors, on va parler du Keren Hesod, mais plus personnellement, je suis toujours encore, même personnellement, bloqué sur ce réveil du 7 octobre qu'on a l'impression de revivre sans arrêt quand on entend toutes les histoires et tout ça. Et ces derniers mois sont passés à une vitesse incroyable. On est bientôt le mois de mai, bientôt une demi-année, et on a l'impression que tout ce temps ne s'est pas écoulé. Donc voilà, 2023, on s'est tous réveillés le 7 octobre avec ce désastre, cette catastrophe, ce pogrom, on ne sait pas trop comment l'appeler. Quelque chose qui va avoir un impact sur le peuple juif et sur Israël pendant de longues décennies. On a été, encore une fois, on a eu la chance, nous, le Keren Hesod, d'être organisé avec l'Agence juive, de pouvoir intervenir déjà le 8 octobre, de pouvoir donner de l'argent à des hôpitaux, à des familles déplacées. Donc, on a travaillé très fort. Les donateurs du monde entier ont été avec nous, et grâce aux réserves qu'on avait. Et l'argent qui a été donné pendant toute cette période, on a pu vraiment faire des miracles. Et les besoins sont énormes parce qu'il y a des dégâts physiques, des dégâts matériaux, surtout les dégâts psychologiques. Et toujours, je tiens à signaler que tous ces enfants dans le sud ne vivaient pas en post-trauma. Ils étaient déjà en post-trauma continu. Le 7 octobre est venu les frapper encore à nouveau. Et maintenant, ils se retrouvent loin de leur maison, loin de leurs écoles, loin de leurs copains, dispersés dans des hôtels un peu à droite, à gauche et dans d'autres. Centre, on va dire des réfugiés. Je ne croyais pas qu'un jour je pourrais dire qu'il y a des réfugiés israéliens juifs en Israël. C'est incroyable. Et donc, on a besoin de les aider. C'est quelque chose qui va durer dans le temps parce que le Nord, on en parle un peu moins, mais beaucoup de réfugiés du Nord qui ne peuvent plus habiter dans le Nord d'Israël. Beaucoup de dégâts matériels, on en parle encore pas trop, mais je pense que les dégâts qu'il y a dans le Nord approchent les dégâts qu'il y a dans le Sud. Donc, on a fait un effort énorme. Et ce qui est frustrant, c'est de voir toute cette énergie et qu'encore on est loin de pouvoir faire ce qu'on voudrait faire. Donc voilà, en 24, et ça je vais laisser peut-être à Dominique d'en parler, de quels vont être les projets et sur quoi on va mettre les accents. On a travaillé vraiment dans plein de directions, on a essayé d'aider le maximum de gens et grâce à nos donateurs, on a pu avoir un impact véritable en fin 23.
Justement, Dominique, vous avez été bien lancé par Yoël. 2024, même question qu'à Yoël.
Alors, 2024, on va mettre le focus sur les enfants, parce que les enfants, c'est l'avenir du pays, c'est l'avenir des familles, c'est l'espoir dans un avenir meilleur. Et comme le disait Yoël, il ne faut jamais oublier que les enfants du sud d'Israël, ils sont en trauma continu. Ça fait 20 ans que le sud d'Israël vit sous la menace des roquettes. Les enfants ont des répercussions, les jeunes adultes qui sont devenus ont des répercussions. Et donc, il faut absolument prendre soin de toutes ces personnes. Et il faudra en prendre soin pendant très longtemps parce qu'effectivement, le traumatisme a été décuplé. Les gens du Nord vont vivre la même chose. Et comme disait Yoël, les Israéliens vont se trouver réfugiés. C'est un mot, moi, qui m'a heurté. J'avais beaucoup de difficultés à employer ce mot, ou même dans nos communications, parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir un terme comme ça, qui est quand même plein de significations, mais c'est réel. Ce sont des personnes qui vivent dans des hôtels, dans des chambres d'hôtels, des adolescents qui vivent dans des petits espaces sans avoir d'espace à eux. Et donc, il y a des tensions, il y a des violences qui peuvent en découler aussi. Donc, de la violence découle évidemment de la délinquance. Et il faut absolument lutter contre ça. Et donc, on a vraiment besoin de l'effort de chaque membre de la diaspora pour donner à tous ces enfants et à toutes ces familles les moyens de s'en sortir. Les moyens de récupérer une maison, les moyens de continuer à être éduqués. Et il ne faut surtout pas oublier non plus que le Keren Hesod, nous avons des projets pérennes, des projets pour les enfants aussi, qui sont pérennes, des centres, des villages éducatifs où on fait vivre des enfants qui sont en bord de la rupture familiale et sociale, qui sont au bord de la délinquance aussi. On a des projets extraordinaires de formation technologique et de coexistence. Et tout ça doit continuer en parallèle. Et nous avons de l'IA aussi. Donc, les besoins sont énormes pour des dizaines d'années. Et on a vraiment besoin que la communauté se mobilise comme elle s'est mobilisée après cet octobre 2023.
Justement, Dominique, quel est votre appel à la diaspora?
On appelle à la diaspora?
Ben, je dirais moi,
Oui.
en tant qu'Israélien qui
Pardon.
vit un peu ces dernières années avec un retour d'une vie de plusieurs mois par an sur l'Europe, il y a quand même, je pense, une déconnexion et c'est normal. C'est-à-dire que quand on vit quelque chose et quand on raconte quelque chose, c'est tout à fait différent. Les gens qui vivent ce qui s'est passé le 7 octobre, qui vivent la réalité israélienne aujourd'hui. Et par rapport à la perception qu'on en a, je sais que les gens ici ont beaucoup de peine, sont très touchés, beaucoup ont même de la famille. Mais il faut comprendre que les gens là-bas ont un rythme de vie. Nos enfants ont été appelés en réserve. Ils sont à peine recommencés au travail. On les rappelle à nouveau en réserve. Donc beaucoup d'inquiétudes, il y a beaucoup de stress, situation économique pas facile. Donc c'est un peu à tous les niveaux. Donc la diaspora a besoin d'Israël, mais nous on a besoin en ce moment, Israël a besoin de la diaspora. Il faut absolument qu'il y ait un soutien. Et je veux dire, des fois, ça se fait par des dons qui sont distribués. On a distribué énormément d'argent. Je rappellerai deux familles vraiment qui ont fait deux projets magnifiques et c'était en direction des enfants. C'est la famille Kitaï qui a fait cadeau un événement avec 200 personnes d'un moshav qui avait été touché pendant le 7 octobre et des bar mitzvah ont été faites. Et il m'a dit, Yoel, j'ai vu leur sourire. Pour moi, c'était l'argent que j'ai donné, ça ne devenait plus rien par rapport à cette joie de voir des jeunes qui ont passé ces traumatismes et tout ça. Et également la famille Niego qui nous a aidés à s'occuper de gens non seulement qui étaient réfugiés, mais en plus les enfants de ces mêmes familles touchés par le cancer. Donc ils étaient loin des centres du centre de Petah Tikva où il y a un hôpital qui est spécialisé. Donc ils ont donné pour une maison qui a été créée par un donateur, une maison Beth Elam, la maison de Elam, où les jeunes sont amenés pendant le temps de leurs soins pour les rapprocher du centre. Donc, on a des projets vraiment qui ont un impact direct. Ce n'est pas pour parler. Toujours je dis, on a un métier où on sauve des vies, où on sauve des âmes, et ça a été vraiment ce qui fait. Et on a besoin de la diaspora. Pour le moment, c'est Israël qui a plus besoin de la diaspora. Je sais que des fois, c'est un peu à l'envers, mais tout est lié. Et quand on voit ce qui se passe un peu en Belgique et de partout en Europe, je pense que ce lien doit être renforcé au plus haut niveau.
C'est vrai,
Oui,
oui,
si je peux...
allez-y, Dominique.
Voilà, si je peux ajouter quelque chose, c'est vraiment la reconnexion à Israël est pour moi un élément extrêmement important parce que la lettre que le CCOJB vient d'adresser à notre Premier ministre de Croo est tout à fait parlante et les réactions que j'ai pu écouter ce matin pendant 10 minutes sur les débats de vivacité qui parlaient de cela, on entend que... Finalement, pourquoi est-ce que on reproche de manquer d'empathie? On ne peut pas parler tout le temps du 7 octobre, que finalement, les Juifs qui demandent de soutenir Israël, eh bien, ils jouent un double jeu et ils ne veulent pas qu'on les assimile à Israël, mais en faisant ça. Donc, toutes les bonnes raisons de ne pas soutenir de ne pas soutenir les citoyens belges et juifs et toutes les bonnes raisons de ne pas soutenir Israël, de condamner Israël dès que c'est possible. Et je voudrais aussi faire un appel aux plus jeunes générations, ceux qui ont quitté les mouvements de jeunesse, qui ont quitté les écoles juives, qui ne sont plus à l'UJB et qui ont l'air d'être complètement déconnectés de ça, mais ça les concerne eux directement parce que l'antisémitisme gronde, monte, et j'entendais un commentateur vivacité qui disait, mais finalement, pourquoi les Juifs se plaignent? Il n'y a pas encore eu de mort. Et ça, c'est très, très emblématique de l'opinion de la rue, et c'est extrêmement inquiétant. Donc, mobilisons-nous, faisons en sorte de défendre nos positions ici en Belgique et de soutenir Israël.
Dominique, vous qui Yoel, pardon, vous qui êtes souvent en Israël et en Belgique, est-ce que vous avez l'impression que là-bas, ils se rendent compte de la situation aujourd'hui en Belgique?
D'abord, ils se rendent compte, malgré la situation, on est un pays en guerre qui risque d'avoir une guerre qui va s'ouvrir encore et tout ça. L'inquiétude des Israéliens se place pour leurs frères juifs. On est très inquiet de ce qui se passe dans les communautés. Les gens disent souvent, pourquoi vous restez là-bas? Yoel, explique-moi pourquoi les gens que tu vois, tes donateurs, pourquoi tout le monde ne vient pas en Israël? Ils sont très inquiets de ce qui va, de ce qui peut se passer. Donc oui, il y a une vraie compréhension. Beaucoup de gens ont de la famille, ont des choses. Et En Israël, malgré tout ce qui se passe, même quand on avait des attentats et tout ça, on s'est toujours senti beaucoup plus en sécurité, malgré tout ce qui se passe, et très inquiet justement pour le peuple juif. Parce que nous, encore, on peut se défendre, même si on fait un peu mieux, on fait un peu moins certaines périodes, mais on peut quand même se défendre, on peut s'inquiéter de nous-mêmes. Et là, quand on voit ce qui se passe en Belgique, surtout, et le désintéressement, et comme disait Dominique, tant qu'il n'y a pas eu de mort, ben, vous allez bien. Est-ce qu'il faut arriver à ce qu'il y ait des victimes pour que comprendre? Alors, moi, toujours, quand on me disait qu'il n'y a pas d'antisémitisme, je les ai toujours regardé une école juive, et on a tout compris. La peur est là, on a peur de parler en hébreu, on a peur de porter des insignes. Donc oui, ils sont tout à fait conscients. Dans
Dernier
cette optique,
point, oui.
oui.
Dernier
Dans,
point
dans...
que l'on souhaitait aborder entre Judaïka et le Keren Hayesod, c'était le don au nom d'un proche et les legs en duo.
Alors, effectivement, la période des fêtes réapproche après Pourim, il y a Pessard, et puis parfois on se dit, on veut faire un cadeau, on veut faire plaisir à quelqu'un, il y a un anniversaire de mariage, une célébration. Pour des gens qui ont beaucoup de choses, pourquoi ne pas faire un don au nom d'une personne et faire ce don Keren Hayesod pour Israël? Et c'est une façon aussi d'avoir un double impact. On fait plaisir à quelqu'un qu'on aime, on a une attention et en même temps on aide Israël. Donc c'est une proposition pour les fêtes. Au lieu d'offrir des fleurs ou du chocolat, faites un don pour Israël et faites-le au nom d'un de vos proches. Et pour ça, allez voir sur notre site. Il y a une page de notre site qui est dédiée à ça, où vous pouvez donner un montant. On envoie une très jolie carte aux proches que vous avez désignés et on signale que vous avez fait un don en son nom.
Et pour reprendre sur le leg en duo, il y a une personne qui s'est intéressée à ça cette semaine, c'est pour ça que j'avais décidé d'en parler. Il y a beaucoup de gens, des fois, qui prennent le Keren Hayesod ou des organisations comme, on va dire, un deuxième, troisième ou quatrième enfant, c'est-à-dire qu'on décide de laisser à ses enfants, on décide de prendre, on va dire, un enfant en plus et de lui léguer quelque chose. Et c'est encore plus vrai quand on veut faire des legs qui sont à des personnes qui ne sont pas du premier degré, par exemple à des neveux. La personne qui m'avait contacté cette semaine voulait laisser assainir ses neveux. Et donc, en faisant un leg qui s'appelle un leg en duo, ça permet de donner une organisation, de donner à ses neveux. Et en plus, vu la défiscalisation qu'on arrive à avoir par le Keren Hayesod, la famille recevra plus d'argent et en plus, on aura fait une bonne action. Donc, les gens qui seraient intéressés, qui doivent léguer, qui s'intéressent, et même comme on dit à de Maestrim chez nous jusqu'à 120 ans, si c'est quelque chose qui leur paraît encore très loin, mais qui veulent léguer à des proches de second, troisième degré, un leg en duo peut être très intéressant fiscalement et permet également de faire une belle action et de donner à des enfants en plus sur des projets qui touchent l'enfance. Voilà, nous, 24, ça va être l'accent du Keren Hayesod. Dans tous les projets, c'est les enfants en premier, les enfants qui sont le plus touchés. Et on va vraiment travailler très, très dur pour faire un maximum de projets qui viennent les aider à se sortir de tout ça.
Dominique, Yoël, on arrive à la fin de notre chronique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en ce vendredi matin et puis on se retrouve dans 2 semaines.
Merci beaucoup, Blaise.
Merci
À très
beaucoup.
bientôt.